Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite le journal Antoine Maret. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Nous évoquerons ensemble les épreuves du bac philo qui ont commencé aujourd'hui dans un contexte de conflit social. Les syndicats appelaient à une grève de la surveillance pour protester contre la réforme du bac.
La République En Marche espère bien gagner des mairies en mars prochain. Le parti macroniste va dévoiler tout à l'heure les premières investitures dans les villes clés. Vous en parlerez avec l'invité du journal de 12h30, le secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé, Adrien Taquet.
Christophe Castaner lance aujourd'hui une réflexion sur le maintien de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur promet de tout mettre sur la table, mais il continue de contester l'existence de violences policières.
Dans l'actualité internationale, le gouvernement chinois réaffirme son soutien à la dirigeante de l'exécutif de Hong Kong, une initiative qui n'a pas apaisé la contestation. Hier, une manifestation massive a rassemblé près de 2 millions de personnes dans l'ex-colonie britannique redevenue chinoise en 1997.
Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous, Olivia.
Solidarité aussi avec l'historien Pierre Vermeeren qui replace dans son nouvel essai le mouvement des Gilets jaunes dans l'histoire. La France qui déclasse pour cause la désindustrialisation et les échecs de 40 ans de politique publique. Nous en parlerons donc avec lui dans une vingtaine de minutes.
À tout à l'heure. C'est le jour J pour les 740 000 candidats au baccalauréat. Pour les candidats des bacs généraux et technologiques, c'est la philosophie qui inaugure les réjouissances. Les lycéens du bac professionnel débutent, eux, avec l'épreuve de français. Beaucoup de stress, souvent, pour ces jeunes gens. Pas tout jeunes, d'ailleurs, le plus âgé d'entre eux a 77 ans. Et à ce stress que beaucoup de bacheliers ont connu, s'ajoute celui cette année de la grève. Pour la première fois depuis 2003, des syndicats de professeurs appelaient à une grève de la surveillance pour protester contre la réforme du bac. Alors Hakim Kasmi, cet appel à la grève a-t-il été entendu ?
Pas de perturbation majeure à signaler, si ce n'est beaucoup de stress pour les candidats et leurs parents, car le ministère avait anticipé largement en prévoyant en moyenne un tiers de surveillants en plus, notamment dans les académies du Sud et de Créteil, où la mobilisation s'annonçait très importante, ce qui n'a pas empêché les rassemblements, les distributions de tracts et même les banderoles au gris des centres d'examen. L'intersyndicale entend protester contre la réforme du bac qui entrera en vigueur dès la rentrée pour les élèves de seconde qui passeront en première. Car ils estiment qu'elle réduira le nombre d'épreuves finales de l'examen au profit du contrôle continu qui comptera pour près de 60% de la note finale. Avec la disparition des filières S, L et ES, les partenaires sociaux y voient aussi dans cette réforme l'instauration d'un bac local dont la valeur dépendra aussi du lycée dans lequel le jeune aura été scolarisé. Les syndicats qui organisent une mobilisation cet après-midi rue du Bac à Paris, cela ne s'invente pas, n'excluent pas de reconduire le mouvement demain.
Et selon le ministère de l'Éducation nationale, les chiffres viennent de tomber. Le taux de participation au mouvement de grève s'élève à 2,54%. C'est donc à 8h ce matin que les 554 000 candidats des bacs généraux et technologiques ont découvert leur sujet de philosophie. Avec nous pour en discuter, Adèle Van Redt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes productrice et présentatrice des Chemins de la philosophie sur France Culture. On va faire avec vous le tour des sujets proposés parmi les questions sur lesquelles les lycéens ont planché pendant 4 heures. Est-il possible d'échapper au temps ?
Oui, donc on va faire en 2 minutes ce qu'ils ont fait en 4 heures.
Exactement.
Leur sujet, donc c'est parti. C'est un beau sujet. Est-il possible d'échapper au temps ? Parce qu'on, je pense qu'on ne l'a pas formulé ainsi dans sa tête, même si on s'est posé la question. Parce qu'on est par essence temporel. Quand on est, dès qu'on a un peu conscience de nous-mêmes, on sait qu'on va mourir, donc on sait qu'on est fait du temps qui passe. Échapper au temps, ça voudrait dire renoncer à son humanité. Dans quel type de circonstances est-ce qu'on se pose cette question ? Ben souvent quand on imagine qu'on est éternel, qu'on devient des robots, qu'on devient des êtres qui se retireraient du temps comme ça. Donc c'est assez particulier comme sujet, mais ça permet de questionner la notion du temps qui est absolument redoutable. Comment définir le temps ? Vous y arrivez ?
Non.
Ben voilà, ben c'est extrêmement difficile.
La morale est-elle la meilleure des politiques ?
Ça, c'est assez amusant parce qu'on entend du Machiavel derrière. Hein, parce que déjà, par essence, la morale et la politique doivent être deux choses absolument distinctes. Ce serait un cauchemar de vivre dans un pays qui pense faire le bien et le mal. Non, on attend de la politique qu'elle nous permette de vivre ensemble. Pas qu'elle nous dise qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour ou pratiquer une activité régulière. En revanche, si on retourne les choses et qu'on se dit en fait la meilleure des politiques, c'est l'inverse de la morale. La meilleure des politiques, c'est d'agir pragmatiquement, bah là on est très proche de Machiavel qui aurait été une bonne référence à utiliser.
Alors ça c'est un sujet que j'avais déjà eu moi au bac,
ouais,
le travail, 5 sur 20.
Bon.
J'écoutais pas France Culture.
Voilà c'est ça, il n'y avait pas encore les podcasts.
Le travail divise-t-il les hommes ?
Et ben alors qu'est-ce que vous avez fait ?
Bah hors sujet.
Là aussi on a envie de retourner les choses. Ce qui est sûr c'est que les hommes ont divisé le travail. La division du travail est quelque chose qui est assez récent et qui a créé tous les problèmes que vous connaissez avec les avantages financiers on va dire. Là on voit que c'est un sujet qui appelle des références à l'actualité. Le travail divise-t-il les hommes? Bah, je crois que là, il y avait un sondage à la sortie des lycées. La plupart des lycéens ont dit avoir parlé des gilets jaunes à l'occasion de ce sujet. C'est une bonne idée, la référence à l'actualité, dès lors qu'elle est expliquée. Faut pas juste dire CF les gilets jaunes, mais dire en quel sens. Est-ce que un mouvement social qui exprime des revendications financières, sociales et économiques peut être entraîné, a pu avoir et la conséquence d'une certaine division du travail qui fait que bah, pour certains, le travail est passionnant et enrichissant, pour d'autres, il est appauvrissant dans les deux sens du terme.
Autre sujet d'actualité, la pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain?
Là aussi, on voit pointer une petite référence à l'actualité. Le terme de communautarisme sera peut-être convoqué par l'étudiant qui sera bien au fait de l'actualité ou qui pratiquera les réseaux sociaux. Il y a un présupposé intéressant, hein, la pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain? Comme si d'un côté, il y avait le genre humain universel, seul et unique, et de l'autre, les cultures qui elles-mêmes étaient très diverses et donc venaient faire obstacle à l'universel. On sent qu'il y a presque une inquiétude derrière. Attention, plus il y a de cultures, plus peut-être l'être humain est en danger. Ce serait quelque chose à creuser et voir si on peut rétorquer un argument inverse. C'est le principe de la dissertation, vous savez, on développe une thèse et puis ensuite l'antithèse et après...
Synthèse.
Voilà.
Merci beaucoup Adèle.
Ben, merci à vous.
On vous retrouve demain à 10h sur France Culture.
Je serai là, on parlera d'Éric Rohmer.
À demain. Chez General Electric à Belfort, la réunion de lancement du plan de sauvegarde de l'emploi annoncé fin mai par la direction a été empêchée. Il prévoit environ 1050 suppressions de postes, principalement dans l'activité turbine à gaz. Mais les dirigeants se sont heurtés aux salariés déterminés à empêcher la réunion. Reportage sur place de Nicolas Wilhelm de France Bleu Belfort-Montbéliard.
Je crois que c'est clair, la première bataille est gagnée.
Le hall est noir de monde. Les syndicats prennent la parole les uns après les autres depuis une passerelle. Philippe Petit-Collin pour la CFE-CGC.
Si on commence à discuter, si on commence à négocier, on est sous le rouleau compresseur et 4 mois après, ils peuvent licencier, qu'on soit d'accord ou non. Donc pour nous, il ne faut pas que le processus démarre. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Première bataille gagnée. Pas de processus lancé.
La réunion a été repoussée parce que les salariés ont su se mobiliser. Certains en tenue civile, chemisette, d'autres en bleu de travail, estampillé G.
C'est la force des Franc-Comtois, quoi. C'est grâce à ça, peut-être, qu'on pourra réussir à avoir quelque chose. C'est la solidarité entre nous tous. On est déterminés, donc c'est la première étape. Donc il va en avoir plusieurs, donc il faudra être mobilisé et puis on verra comment ça va se dérouler. Mais ça va être long.
Les ouvriers sont solidaires déjà et puis qu'on est tous main dans la main. On ne sait pas faire. On fera tout pour essayer de réduire ce plan, voire de l'annuler, mais plus de le réduire.
Sorti sous les huées, le directeur général de GE Power a regretté l'absence d'un débat serein et constructif qui l'a poussé à reporter la réunion. Les syndicats, eux, sont plus déterminés que jamais.
On va l'avoir, cette victoire. On va la gagner, cette victoire. C'est qu'on va la gagner. On va les faire plier.
C'est un parti qui part de rien, mais qui a de grandes ambitions. La République En Marche n'a pour l'instant aucune mairie en France, mais le parti d'Emmanuel Macron espère bien décrocher de nombreuses municipalités lors des élections de mars prochain. Et pour cela, le pragmatisme macroniste va une nouvelle fois entrer en scène avec des alliances au cas par cas. La République En Marche va dévoiler tout à l'heure les premières investitures dans les villes clés. À quoi faut-il s'attendre, Anne Fauquemberg?
Au-delà du cas parisien qui cristallise encore aujourd'hui la tension, 15 premières investitures seront dévoilés d'ici quelques minutes par La République En Marche à Paris. Les municipales doivent permettre au parti du président de s'ancrer sur le territoire, ce qui a manqué, on l'a vu, avec la défiance des élus locaux en début de mandat et à l'occasion de la crise des gilets jaunes. Depuis plusieurs mois donc, dans les départements, des comités politiques se structurent pour préparer cette échéance, mais La République En Marche privilégie aussi le soutien à des maires sortants plutôt que la constitution de ses propres listes, d'où cet appel lancé aux Républicains après la déroute des européennes. Un appel qui n'est pas sans poser souci aux militants locaux comme à Tours, Orléans, Angers ou encore Toulouse où l'état-major s'apprêterait à soutenir l'équipe sortante. L'état-major parisien qui toutefois cherche à rassurer ses troupes en obligeant les futurs candidats à souscrire à une charte des 10 engagements éthiques de l'élu progressiste. Parmi les exigences par exemple, la publication de la rémunération des maires, la parité obligatoire même dans les plus petites communes ou encore l'interdiction des emplois familiaux dans l'administration locale. Un certain nombre de maires issus des rangs de la droite et du centre, 72 exactement, ont déjà fait acte d'allégeance.
C'est sans doute un des ministres les plus critiqués ces derniers mois, notamment pour sa gestion de la crise des gilets jaunes. Christophe Castaner lance aujourd'hui une réflexion sur le maintien de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur promet de tout mettre sur la table tout en continuant de contester l'existence des violences policières. Une quinzaine d'experts sont réunis à Beauvau pour plancher sur, je cite, une évolution en profondeur de la doctrine et des méthodes du maintien de l'ordre, Florence Turm.
Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, plusieurs changements sont intervenus dans le domaine du maintien de l'ordre. Changement de doctrine d'abord au lendemain du 1er décembre et des saccages sur les Champs-Élysées avec un renforcement de la réactivité, de la mobilité et de l'autonomie des forces de l'ordre sur le terrain. Changement de préfet le 16 mars avec le limogeage de Michel Delpuech et la promulgation d'un décret qui prévoit une amende de 135 € pour participation à une manifestation interdite. Nouvelle loi le 10 avril qui vient encore durcir le cadre existant en autorisant les fouilles des bagages et des véhicules et en instaurant une peine d'emprisonnement pour les manifestants masqués ou cagoulés. Mais aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur semble vouloir aller plus loin encore dans la réflexion. Il parle en l'occurrence de la nouvelle psychologie des foules au cours des 10 dernières années avec des références explicites aux manifestations contre le barrage de Sivens et à la mort de Rémi Fraisse, tué par une grenade offensive, à la mobilisation contre le projet de Notre-Dame-des-Landes ou encore au sommet du G20 de Hambourg avec la présence récurrente des Black Blocs, les activistes les plus radicaux et les plus violents. En réunissant ce groupe d'experts, Christophe Castaner a promis d'explorer toutes les dimensions du maintien de l'ordre, y compris les plus controversées, comme les modalités d'usage des LBD, les lanceurs de balles de défense accusés d'avoir gravement blessé plusieurs manifestants. Des intervenants étrangers sont également conviés pour exposer leurs propres procédures entre les lanceurs d'eau allemands et les chevaux des policiers britanniques qui pourraient trouver leur place en France, en tout cas au stade de la réflexion initiée aujourd'hui.
La 53e édition du Salon du Bourget a ouvert ce matin, un rendez-vous important en France où le secteur de l'aéronautique emploie 350 000 personnes. Cette année, ce sont l'urgence climatique et les questions de sécurité qui occupent les esprits, notamment la lutte contre les drones qui peuvent être détournés à des fins malveillantes, comme par exemple le survol de centrales nucléaires en France en 2015, des intrusions qui ont mis en lumière la nécessité de protéger les sites ou les grands événements. Et au Salon du Bourget, cette année, on peut découvrir des systèmes anti-drones capables de neutraliser ces engins en une poignée de secondes, Nathalie Hernandez.
Pour quelques centaines d'euros, il est facile aujourd'hui de se procurer un drone, la plupart du temps pour les loisirs, mais certains utilisateurs les détournent pour en faire des espions, voire des armes, comme l'avait fait le groupe terroriste État islamique. Face à cela, les armées s'équipent en systèmes anti-drones. Les militaires viennent d'acheter une vingtaine de systèmes Boréades à la société française CS pour protéger les bases en France et les soldats en opération. En 30 secondes, Boréade va détecter et neutraliser tout type de drone, comme l'explique le spécialiste de CS, Egidio Co.
C'est un système assez léger, déployable très rapidement, c'est de l'ordre d'une heure, constitué d'un radar, d'une caméra haute performance et de systèmes pour neutraliser les drones. Que le drone émette ou pas, le système radar va le détecter. Dans un deuxième temps, on essaye de savoir si les objets qu'on a détectés sont des drones ou autre chose. Ensuite, l'opérateur va visualiser le drone. Et si la menace est avérée, là, on essaye par tous les moyens d'empêcher le drone de réaliser sa mission. Principalement aujourd'hui par des mécanismes de brouillage. D'une part, les télécommandes de ces engins, mais également qui vont brouiller son système de navigation, donc le GPS.
Au Bourget, d'autres innovations sont à découvrir, comme cette application permettant de voir le trafic en temps réel de tous les drones sur un territoire.
Une présidente de la cour d'assises des Yvelines a été blessée au visage ce matin à son domicile. C'est ce qu'on a appris selon l'agence interne France Info. Son pronostic vital n'est pas engagé. La victime a été transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris sans que la gravité de ses blessures ne soit précisée. La magistrate a été prise pour cible avec une arme décrite comme une arme de défense similaire à un LBD. L'auteur des faits a pris la fuite. La municipalité de Béziers, dirigée par Robert Ménard, a été condamné pour concurrence déloyale et parasitisme envers le peintre muraliste Jean-Pierre Son. Il s'agit d'un parcours de fresques dans la ville. Le tribunal de grande instance de Marseille a donc condamné la ville à verser à l'artiste 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme dont elle s'est rendue coupable en profitant du travail de cet artiste dans le cadre de la réalisation d'un parcours de fresques historiques à travers la ville. Midi passé de 44 minutes sur France Culture, le gouvernement chinois réaffirme son soutien à la dirigeante de l'exécutif de Hong Kong. Carrie Lam fait l'objet d'appels à la démission après des manifestations géantes contre son projet de loi d'extradition vers la Chine, texte désormais suspendu. Une initiative qui n'a pas apaisé la contestation. Hier, une manifestation massive a rassemblé près de 2 millions de personnes dans l'ex-colonie britannique redevenue chinoise en 1997. Sur place, le récit de notre envoyé spécial Dominique André.
Après la manifestation gigantesque, le gouvernement local de Hong Kong multiplie les gestes d'apaisement. Carrie Lam, la chef de l'exécutif local dont les manifestants réclament la démission, a présenté ses excuses aux Hongkongais pour les lacunes dans le travail du gouvernement qui ont entraîné, a-t-elle dit, beaucoup de conflits et de querelles dans la société hongkongaise. Dans la matinée, les policiers ont imploré quelques centaines de manifestants de quitter une dizaine de voies de circulation très fréquentées habituellement. Les manifestants ont fini par partir pour s'installer dans un parc à proximité. Joshua Wong, le visage jeune du mouvement des parapluies de 2014, en prison depuis un mois, a été libéré. À sa sortie, l'opposant a appelé à la démission de Carrie Lam et a déclaré qu'il rejoignait le mouvement de protestation. La chef du gouvernement local cristallise le malaise d'une majorité de Hongkongais. Son temps semble compter. Difficile d'affirmer que la chef de l'exécutif local pourra aller au terme de son mandat qui expire en 2022.
Les corps sans vie de 8 migrants ont été retrouvés aujourd'hui au large des côtes de la Turquie après le naufrage de leur embarcation. 31 autres personnes ont pu être secourues. Le naufrage a eu lieu à quelques kilomètres d'une île grecque. Et pendant ce temps-là, côté italien, le navire humanitaire Sea-Watch 3 stationne toujours au large de l'île de Lampedusa. À bord, 43 migrants attendent toujours un port pour que leur bateau accoste. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Samedi dernier, Matteo Salvini a autorisé 10 des passagers à débarquer. Il s'agit d'enfants et de femmes enceintes, essentiellement. Mais le ministre de l'Intérieur d'extrême droite refuse toujours que le navire ne pénètre dans les eaux territoriales italiennes.
Oui, au terme d'un décret qu'il a pris, décret qui menace les fondements légaux du principe même de secours en mer. Le ministre de l'Intérieur italien ne décolère en fait pas contre le Sea-Watch. C'est le dernier navire humanitaire à croiser au large de la Libye pour tenter de porter secours aux migrants. Le dernier témoin aussi des drames qui se joue dans la zone. Les autres navires d'ONG sont bloqués à quai en Europe, le Lifeline à Malte, l'Open Arms à Barcelone, quand l'Aquarius est lui privé de pavillon. Pourtant, les embarcations de migrants continuent à fuir la Libye, pays en guerre, rappelons-le, où leurs conditions de détention sont considérées par l'ONU comme inhumaines et dégradantes. On ne compte plus les récits de viols, tortures, enfermements sans eau ni nourriture, des conditions sanitaires désastreuses, les cas de tuberculose se multiplient, sans oublier le trafic humain. Mais l'Europe détourne les yeux. C'est un silence assourdissant qui répond aux dernières initiatives de Matteo Salvini. Réunis à La Valette, en sommet en fin de semaine, les dirigeants européens n'ont trouvé aucune parole commune pour organiser l'accueil. Leur seul appel ayant été à destination des ONG, sommés de respecter le droit international et de ne pas empêcher l'intervention des gardes-côtes libyens. Or, ces derniers sont pointés dans différents rapports de l'ONU, notamment comme complices des passeurs, sans oublier leurs catastrophiques interventions au large de la Libye pour rapatrier les embarcations en difficulté. L'Europe tourne donc en rond et regarde ailleurs. Depuis la fermeture des ports italiens il y a un an, au moins 1151 migrants ont péri en Méditerranée centrale, selon MSF et SOS Méditerranée, tandis que 10 000 autres ont été renvoyés en Libye. Parmi les 43 rescapés, toujours à bord du Sea-Watch, 3 mineurs non accompagnés, dont le plus jeune a 12 ans, précise l'ONG allemande, qui rappelle leur droit inaliénable à un port sûr.
Merci à vous Marie-Pierre Véraud. Au Nigeria, au moins 30 personnes ont été tuées hier soir dans un triple attentat suicide attribué à Boko Haram. Plus de 40 ont été blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier perpétré par le groupe islamiste depuis des mois dans cette région. Les trois kamikazes ont déclenché leur charge explosive devant un centre de retransmission de football où des dizaines de personnes regardaient un match. Midi passé de 49 minutes sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview avec vous, Adrien Taquet. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé, vous êtes membre de La République En Marche. On a entendu dans ce journal les spéculations autour des candidats marcheurs au municipal. Il y a un cas particulier, c'est la capitale. Pas moins de 6 candidats marcheurs, candidats à la candidature. Aurore Berger, porte-parole de LREM, redit ce matin qu'il n'y aura pas de primaire, alors que 5 des 6 candidats en réclament une. Comment est-ce que vous allez sortir de ce marasme, de cette situation ?
Écoutez, moi je suis un garçon relativement simple. Il y a des règles qui ont été émises, il y a quelque temps déjà, qui avaient été acceptées d'ailleurs par, non pas un seul candidat, mais par plusieurs d'entre eux. Et donc ces règles, on les respecte. Voilà, ça me semble assez simple comme façon de procéder. Laissons la Commission nationale d'investiture travailler avec sérénité. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont demandé les 15 référents parisiens, c'est-à-dire l'intégralité de nos responsables locaux à Paris, qui ont publié aussi un appel ce week-end. pour en appeler justement à ce que la Commission nationale d'investiture puisse travailler avec sérénité et désigne dans le calendrier qu'a fixé le délégué général, le candidat parisien. Mais vous dites, il y a une particularité, c'est Paris. Non, je crois pas que ça soit une particularité. Vous savez, il y a 36 000 ou 35 000 maintenant autres communes en France. Et d'ailleurs, d'ici 10 minutes maintenant, il y a une conférence de presse qui est
organisée. Pour les grosses communes, mais pas Paris.
Et on va désigner, on va présenter, non pas 15, mais je crois 19, si je ne me trompe pas, les 19 premiers candidats investis par La République En Marche. Moi, c'est ça que j'ai envie de retenir. Le mouvement est en marche. Ce sont des gens qui sont tous engagés, qui sont tous dans une démarche de rassemblement. Il y a des maires sortants qui ont fait un bon boulot et qui partagent nos valeurs. Et moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de retenir aujourd'hui. Et à cet égard, Paris ne doit pas être différente des autres communes.
Question de Stéphane Robert, chef du service politique.
Il y a une grève dans les services d'urgence depuis maintenant 3 mois. Il y a eu un certain nombre de mesures annoncées la semaine dernière. On a parlé de 70 millions d'euros de débloqués à travers notamment une prime qui sera pérennisée et versée aux professionnels de santé. Et puis 15 millions d'euros pour maintenir des lits ouverts cet été. Ça paraît assez peu finalement. Est-ce que c'est... Et puis on voit bien que ça ne satisfait pas les personnels de santé qui disent que c'est pas assez. C'est presque une goutte d'eau. Certains emploient ce mot-là dans un océan. Ça fait 3 mois que ça dure. Le gouvernement réagit maintenant, juste à l'approche de l'été, alors qu'on sait que ça se tend à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce temps de réaction aussi long ?
Alors, si je peux me permettre, je pense que le gouvernement ne réagit pas juste maintenant. Rappelez quand même que Agnès Buzyn a passé 25 années à l'hôpital et que le premier jour de son arrivée, elle en connaissait la situation. Et c'est pour ça que dès le premier jour a été initiée une réflexion qui a abouti il y a plusieurs mois déjà, c'est-à-dire dès avant le mouvement de grève dans certains services d'urgence. Ma stratégie santé 2022, qui notamment réorganise l'articulation entre les services d'urgence et toute la médecine de ville, car on sait qu'une des problématiques des urgences, c'est toutes ces visites non programmées, qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui se rendent aux urgences alors qu'ils pourraient se rendre dans d'autres endroits. Donc c'est Ma Santé 2022, ça fait plusieurs mois que ça change. Ce sont des mesures structurelles qui vont mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais parce que nous sommes face à une situation dont on sait bien qu'elle ne dépend pas de ce gouvernement, mais elle trouve ses racines dans les 20 à 30 dernières années. Et puis, il y a des mesures d'urgence qui ont été annoncées, vous l'avez dit, la semaine dernière. La ministre a rencontré l'ensemble des professionnels. Effectivement, d'une part, une prime de 100 euros net, parce que il faut le reconnaître, les conditions d'exercice aux urgences ont changé, ont évolué, se sont durcies, les incivilités se multiplient, donc une prime de risque qui est attribuée à l'ensemble des personnels qui sont en contact avec le public, et puis une autre prime qui peut aller jusqu'à 100 euros brut, qui est une prime de coopération, justement pour pousser, conduire, accompagner en quelque sorte les personnels à rediriger les personnes vers d'autres structures que celles des urgences pour pouvoir désengorger celles-ci.
L'essentiel des mesures, vous le disiez, sont des mesures structurelles qui vont porter leurs effets d'ici quelques années. On dit quoi aux personnes de santé en attendant ? Tenir jusque-là ?
Non, pas du tout. Avec un certain nombre quand même de mesures urgentes, je viens de les rappeler et vous avez évoqué ces 15 millions d'euros pour effectivement faire face à un pic dont on connaît la récurrence chaque été afin de pouvoir avoir embauché des personnels paramédicaux notamment supplémentaires. Et puis, par ailleurs, la ministre a demandé à M. Carli, qui est président du Conseil national de l'urgence hospitalière, et à Thomas Meynier, qui est un député, mais qui était, il y a encore de cela, 2 ans et quelques jours, il était médecin urgentiste, donc il connaît la réalité de la situation. Nous leur avons demandé de nous formuler dans les meilleurs délais des propositions et des recommandations pour faire face à la situation actuelle.
Votre grand sujet à vous, c'est la protection maternelle et infantile, dont vous avez annoncé une refonte du système la semaine dernière. En quelques mots, c'est quoi et qu'est-ce que vous voulez changer ?
Alors, la protection maternelle et infantile, c'est une vieille dame de 75 ans. C'est une de ces institutions qui est vraiment née dans l'après-guerre et qui incarne notre modèle de protection sociale auquel nous sommes attachés. J'étais effectivement à Argenteuil, sur les terrasses d'Argenteuil, à la PMI d'Argenteuil, pour annoncer quelques mesures qui vont refonder cette protection maternelle et infantile, qui est la responsabilité des départements, hein, et qui a un rôle essentiel à jouer en matière de prévention sur la santé globale des enfants. Nous mettons phase sur la prévention des enfants, nous sommes en train de travailler sur les 1000 premiers jours de la vie des enfants, du 4e mois de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, et la protection maternelle et infantile doit jouer un rôle dans cette période-là, où tout se joue pour les enfants, à la fois sa santé, tout ce qui est de l'ordre de son développement, de son éveil, mais aussi c'est là où se forgent et se creusent les inégalités sociales. C'est au cœur de notre projet politique.
Et donc, ce que vous voulez changer, c'est quoi ? On manque de médecins ?
Alors là, de la même façon, problème de désertification médicale, 2/3 des médecins qui exerçaient en 2006 vont être à la retraite d'ici 2020. Donc là aussi, meilleure articulation avec l'ensemble des professionnels de santé, dégager du temps médical. 30 à 40% du temps des médecins de PMI sont aujourd'hui consacrés à, par exemple, faire les agréments pour les crèches. Peut-être pourrait-on les dégager de ce temps-là. Et donc, nous allons transférer ces agréments. Nous avons lancé une mission pour voir dans quelles conditions faire cela. Voilà. Et puis, mieux articuler aussi les missions entre les médecins et les infirmières puéricultrices, afin, là aussi, de dégager du temps et être plus proche des parents, des enfants, pouvoir renouer avec les visites à domicile. C'est très important d'aller voir dans quel environnement un enfant se développe pour l'accompagner dans ses premières années de la vie.
Merci. Merci beaucoup à vous, Adrien Taquet, d'avoir accepté notre invitation dans le journal de France Culture. Merci également à vous, Stéphane Robert. Cet après-midi, beau temps sur l'ensemble du pays. Température estivale 17 à Cherbourg, 25 à Paris, 30 à Toulouse. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h avec Aurélie Kiefer.